Bonjour. Je suis ravi de voir que mon étude de texte ne vous a pas trop découragé et que vous en redemandez peut-être. Bon, on va en faire un peu, mais ensuite on va passer à des choses un peu moins embêtantes. Cela étant dit, je pense que c'est important, hein, encore une fois. Je viens d'apprendre que Le Monde me citait dans un article sur la Russie et Poutine. Apparemment, le contexte, c'est celui des deux néologismes que j'avais pondus lors de ma leçon inaugurale et que j'avais appliqué à la Turquie. Je l'avais appelé Cléomane et Cléopâtre, folle d'histoire et malade d'histoire. Apparemment, c'est ça qui a été retenu. Et à l'inverse de la phrase consacrée, c'est un très grand pas pour moi et un tout petit pas pour l'humanité. Bon. Ça fait plaisir. Et cela étant dit, j'aime toujours voir que quelque chose qui s'inscrit dans un contexte en général plus exotique peut être récupéré et appliqué à des contextes qui sont plus familiers. Voilà. Ma petite minute de publicité. J'en profite pour vous annoncer quelque chose que j'ai oublié de faire la première fois lorsque je vous ai expliqué que mon programme avait été reporté d'une semaine. Le seul problème, c'est que en raison, encore une fois, des disponibilités de la salle, ma dernière séance n'aura pas lieu un vendredi comme d'habitude, mais un jeudi, le 20, et non pas le 21. Donc si vous êtes habitué à une sorte de rituel, il vaut mieux prendre note de cela, moi aussi d'ailleurs. Mais les horaires restent les mêmes, donc de 2h à 3h30, le jeudi 20 février. Ce sera la leçon de clôture pour cette saison, pour cette année. Je crois que c'est indiqué sur la version revue et corrigée de la plaquette de la fichette de mon cours. Voilà. Revenons-en à nos moutons, à ce décret des tanzimates que nous avons analysé la dernière fois. Vous verrez ici, vous connaissez, je pense maintenant, ma passion pour les médailles, pour les belles médailles. En voici une que nous commenterons, que nous analyserons plus tard, qui est un peu plus tardive, elle date de 1850, mais c'est une médaille qui est connue sous le nom de la médaille des Tanzimates, de la régénération de l'Empire ottoman. C'est un objet assez imposant, il fait à peu près cette taille, une dizaine de centimètres de diamètre, et il est lourd, non seulement matériellement, mais aussi lourd de symboles, qui se rapportent bien sûr au Tanzimat. Mais comme il n'est pas contemporain de l'affaire, ce n'est pas maintenant que j'en parlerai, mais lorsque nous avancerons un peu dans le temps et que nous parlerons de l'application ou non des principes du décret des Tanzimat. Les Tanzimat, donc le texte, vous le connaissez maintenant, vous le connaissez aussi dans sa version française, et voici, simple rappel, les points importants qui, dans le texte, doivent être retenus, une sorte de pense-bête de ce que les Tanzimates apportent au système ottoman, ou du moins prétendent apporter au système ottoman. Respect de la charia, vous vous souvenez de ce préambule qui dit à quel point le manque de respect pour la charia avait été la cause de tous les déboires de l'Empire ottoman et que par conséquent, ce document s'inscrivait dans le respect formel de la charia et des lois divines. La protection de la vie et des biens, la répartition de l'assiette fiscale, ça, toujours dans les États moderne. La fiscalité a une place centrale aussi bien dans le fonctionnement de l'État, puisque c'est là que l'État se nourrit, mais aussi dans le discours de légitimité, puisque le problème majeur, c'est justement de faire accepter à une population une fiscalité qui est souvent excessivement lourde, excessivement irrégulière, et qui, par conséquent, à tout moment, risque de causer un déficit de légitimité l'État. C'est quelque chose qui n'est pas propre à l'Empire ottoman, c'est quelque chose que vous retrouverez dans l'Ancien Régime, c'est quelque chose que vous retrouverez en fait dans la modernité, même en ces jours où la légitimité de l'État est plutôt fondée sur les capacités de l'État à servir la population et non pas l'inverse. Donc la fiscalité, c'est toujours crucial. Et ce que les Tanzimat promettent, c'est une assiette fiscale mieux répartie, c'est-à-dire une fiscalité qui serait proportionnée aux moyens des sujets, des contribuables. L'abolition des fermes, qui tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, puisque c'est quelque chose quand même d'assez pointu, l'abolition des fermes, l'abolition des monopoles, c'est quelque chose qui a un rapport, et nous le reverrons, avec la politique de libre-échange que la Grande-Bretagne est en train de promouvoir, voire même d'imposer dans le monde, et c'est donc un aspect beaucoup plus pointu, beaucoup plus économique de la chose. La conscription proportionnelle, c'est un peu le pendant militaire de l'assiette fiscale. On sait que le service militaire est une invention assez récente en Occident comme en Orient, mais tous les États doivent, d'une manière ou d'une autre, avoir recours à un vivier humain pour alimenter leur armée. Et vous avez une vaste panoplie de moyens, un vaste éventail de méthodes qui sont utilisées par les États en période moderne, qui va d'un noyau dur de militaires professionnels, c'est-à-dire qui sont salariés, c'est un peu le cas des janissaires, même s'ils ont disparu en 1826, c'est une des premières armées salariées de l'Europe moderne. Et puis vous avez bien sûr des formules plus mercenaires, plus ad hoc, qui veulent recruter, selon les besoins de l'État, des groupes plus ou moins importants d'hommes dans la population. Et vous avez bien sûr les volontaires, qui sont très importants dans le contexte de l'Empire ottoman. Gönüllü, c'est l'âme, c'est le cœur. Gönüllü, c'est quelqu'un qui met son cœur, c'est quelqu'un qui fait quelque chose parce qu'il le veut. Donc ces volontaires, ils sont un peu à mi-chemin entre le mercenaire et le volontaire, puisque cette volontarité, elle masque souvent un objectif de rapine. C'est-à-dire que c'est un moyen de s'enrichir rapidement, et c'est aussi un moyen parfois d'acquérir des avantages qui sont normalement réservés aux membres de l'élite militaire et administrative. Donc il y a de la promotion sociale, et puis avec la modernité, les Ottomans commencent à se mettre au goût de l'époque, c'est-à-dire à recruter pour une période donnée des individus qui rendront un service militaire à l'État. Le problème, c'est que ce service militaire, et le texte le disait lui-même, il pouvait durer toute une vie, il pouvait durer, et par conséquent, c'était un poids extrêmement gênant pour la population, qui perdait ses hommes, notamment dans l'agriculture, et qui par conséquent pâtissait, souffrait énormément de cette ponction humaine sur les ressources démographiques de l'Empire. L'abolition du trafic des places, c'est le terme utilisé dans le document et dans des documents similaires, c'est-à-dire la vénalité des emplois. le fait que l'État moderne, même si, et l'État moderne ottoman, même s'il est parti d'un principe qui est admiré par l'Occident, on se souvient de la manière dont Machiavel vantait les mérites du système des esclaves de la porte, des coules, en disant que c'était une méritocratie qui présentait une alternative extrêmement intéressante à l'aristocratie. Cette méritocratie, en principe, a très vite dégénéré en une forme d'aristocratisation et bien sûr, la vénalité des charges. On le sait, ça fait partie de la manière dont l'État moderne fonctionne. On n'a qu'à se souvenir de l'Ancien Régime, notamment de la France sous Louis XIV, en gros, en vendant des titres ou des emplois ou des fermes à des bourgeois, satisfait d'une part à son besoin de numéraire et d'autre part contamine en quelque sorte le système dominé par l'aristocratie et s'en sert pour dévaloriser en quelque sorte les privilèges des bien-nés. Donc tous les États fricotent avec la vénalité, ils s'en nourrissent et ils s'en servent d'abord parce que la bureaucratie idéale, elle n'existe jamais et que instaurer un système parfait, un système qui serait vraiment contrôlable à tout moment, c'est quelque chose qui est impensable avec les moyens techniques, logistiques de l'époque. Donc l'abolition du trafic des places, c'est la prétention à se débarrasser de la vénalité qui mine le système. Fin des exécutions sommaires, et vous vous souviendrez que ça n'est pas simplement un discours général sur la justice sommaire qui serait rendue par le sultan de manière inique, etc. Il y avait, et nous l'avions souligné sans l'expliquer, et on y arrivera, il y avait des points de détail qui étaient quand même très intéressants. On disait il n'est pas question d'exécuter ou d'empoisonner, et empoisonner dans le sens littéral du terme, d'empoisonner des gens sans jugement préalable. Pourquoi cette précision, nous le verrons, mais en tout cas, nous sommes là dans le principe de la justice qui rend des comptes à au public, disons, quitte à définir les limites de ce public. Et enfin, ce que l'on retient en général le plus du décret des Tanzimat, c'est cette petite phrase où le sultan insiste sur le fait que ces modifications du système, ces nouvelles lois, ces nouvelles mesures seront appliquées à tous mes sujets indifféremment de leur religion. C'est donc ouvert aux raïa, comme on les appelle au XIXe siècle, c'est-à-dire aux sujets tributaires. Si on retient particulièrement cette clause du firman, qui en fait est quand même accessoire, qui est secondaire, qui est même cosmétique, c'est parce que on la relie au futur, on la relie à la transition graduelle du système vers la reconnaissance de l'égalité des sujets, pas encore des citoyens, mais c'est un premier pas vers la constitution du concept de citoyen. Et bien sûr, on en parle énormément, même pendant la promulgation du décret, parce que c'est un thème qui revient sans cesse dans le discours politique de l'Occident. La question de l'Orient, ça n'est pas simplement cette rivalité entre l'Égypte et l'Empire ottoman, c'est aussi la question des chrétiens d'Orient. Encore une fois, j'insiste sur les chrétiens, puisque pour le moment, les juifs, personne ne s'en soucie. Ça n'est pas vraiment une question. Parfois, on les inclut dans la liste des communautés non musulmanes qui souffrent sous le joug de l'Empire ottoman, etc. Mais le véritable souci, le véritable accent est mis sur les populations chrétiennes. Et pourquoi ? D'abord parce qu'elles sont chrétiennes, et nous sommes dans une Europe qui se définit quand même dans la chrétienté et qui voit dans ces versions orientales, même si elles sont souvent considérées comme dégénérées, etc., on y voit une sorte de continuité, une sorte de parenté avec la civilisation occidentale. Et puis, quand même, il y a un contexte politique qui est fort depuis l'autonomie de la Serbie, depuis l'indépendance de la Grèce et, bien sûr, les mouvements nationaux ou proto-nationaux qui sont en train de couver dans les Balkans, notamment les principautés du Danube, c'est-à-dire ce qui deviendra la Roumanie. Donc il y a un ordre du jour politique en Occident qui concerne le statut et la destinée des populations non musulmanes de l'Empire ottoman. Donc c'est une des raisons pour lesquelles cet aspect, encore une fois quelque peu secondaire, du décret mousse un peu plus que les autres et devient une sorte de point fort, de point d'orgue de cette déclaration. Alors, vous vous souviendrez que nous l'avions décortiqué, ce texte. Je vous avais proposé quelques interprétations lexicales, sémantiques du vocabulaire utilisé en français et en turc. Encore une fois, je pars du principe que c'est un texte qui est publié simultanément dans les deux langues. Donc, nous ne parlons pas d'une traduction postérieure, nous parlons d'un texte qui a été pensé, rédigé dans les deux langues lors de sa promulgation. Et pour cause, puisqu'il s'agissait de distribuer le texte à une partie du public, notamment les diplomates qui étaient là pour représenter les grandes puissances, et même des invités de marque, tels le prince de Joinville, dont nous avons lu les passages décrivant sa visite de Constantinople et ses commentaires sur le décret des Tanzimat. J'avais souligné le fait que, même si nous admettons que le texte a été rédigé par des Ottomans, et je pense que c'est probablement le cas. Après tout, si l'on donne à Mustafa Reşit Paşa la paternité de ce texte, c'est un bon ottoman. Et je vous avais dit qu'il provenait quand même d'un milieu assez traditionnel. Il avait fait ses classes dans une medrese avant d'être recyclé dans la bureaucratie. Donc c'est un texte ottoman. Et pourtant, j'avais insisté sur le fait que certains termes sont évidemment des traductions du français. C'est-à-dire qu'il y a là des concepts, il y a là des idées qui sont nouvelles pour les Ottomans et qui, par conséquent, sont probablement, par Mustafa Reşit ou quiconque d'autre, pensées d'abord en français et ensuite traduites en turc. Et cette traduction, c'est en général la création d'un néologisme. Ce n'est pas tant la question de trouver une équivalence, parce que l'équivalence n'existe pas forcément. Et puisqu'on veut faire le ménage, puisqu'on veut produire du neuf, dans ce cas-là, plutôt que de tomber dans une interprétation discutable de certains termes qui sont beaucoup plus traditionnels, on va essayer de mouler dans la modernité un nouveau vocabulaire, de nouveaux termes, une nouvelle terminologie qui correspond mieux aux idées, aux principes que l'on essaye d'énoncer. Et c'est pourquoi il y a des termes que je n'avais pas évoqués, qui n'étaient pas sur ma liste, mais l'un des plus flagrants, c'est celui de Vatan. Vatan, c'est la patrie. Ça l'est aujourd'hui en turc et en arabe. Parfois, c'est aussi la nation dans un contexte arabe. Encore une fois, les faux amis abondent quand on utilise l'arabe dans un contexte moyen-oriental. La plupart il y a énormément de contresens puisque les Ottomans sont en train de s'inventer un arabe pour turc. Ils sont en train de s'inventer un vocabulaire qui emprunte à l'arabe, comme le français des Lumières emprunte au grec, pour se constituer un nouveau vocabulaire. Vatan fait partie de ce terme, de ces termes, il revient deux fois dans le texte, pour être traduit par patrie, ou plutôt pour traduire patrie dans, le, dans la, la version française du texte. Mohabbet et Vatan, Mohabbet c'est l'amour. L'amour aussi bien fraternel que plus genré, c'est toutes les formes de, d'amour fort, c'est l'amitié forte. Mohabbet et Vatan devient donc une traduction de l'amour de la patrie, un des éléments qui sont invoqués dès le préambule pour justifier l'introduction de ces nouveautés dans le système ottoman. Vous vous souviendrez qu'il y a, je disais que ça sentait bon les Lumières, que ça sentait bon la physiocratie, il y a énormément de références au bonheur. Croyez-moi, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, les textes ottomans ne parlent pas d'amour ou de bonheur quand il s'agit d'évoquer les sentiments que l'on attend de la population. C'est en général beaucoup plus hiérarchisé. Il s'agit tout simplement d'obéir. On justifie en des termes moraux, religieux, toutes sortes de relations et de mesures prises par l'État envers les sujets, mais on ne va pas parler de muhabbet, d'amour, on ne va pas parler de dostluk. C'est une terminologie en fait qui appartient à un autre registre, celui de la religion, et pas n'importe quelle religion, celui du soufisme. Le soufisme aime l'amour. Le soufisme est plein de références à une terminologie très, très affective qui reprend le thème de l'amour pour l'appliquer à la relation entre l'être humain et Dieu. Et c'est pourquoi les ordres soufis les plus hétérodoxes, les plus lointains, les plus éloignés de la norme orthodoxe ont tendance à avoir un vocabulaire encore plus emphatiquement amoureux, si vous voulez. Pour les Bektashi, par exemple, cette célèbre confrérie qui est connue pour ses syncrétismes, puisqu'elle va piocher dans l'islam sunnite, mais aussi dans l'islam alévite et dans le chiisme, voire même dans des relents de christianisme pour se constituer un dogme qui est beaucoup plus flexible, extrêmement malléable, et où l'amour tient une part extrêmement importante. « Hu dost », lui, l'ami, « hu », c'est lui en arabe, et dost en persan, c'est l'ami, « hu dost », lui, l'ami, c'est une manière d'invoquer Dieu, et quelque chose que l'islam sunnite fera moins, mais le vocabulaire affectif, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'appartient pas vraiment au registre de la politique, au registre des relations entre l'État, le souverain ou l'élite dirigeante et le reste de la population. Là, on parle plutôt d'obéissance, de reconnaissance, on parle de toutes sortes de choses, mais pas vraiment d'amour. Donc un nouveau vocabulaire qui, je vous le disais, sent bon les Lumières, puisque les Lumières étaient persuadées qu'en jouant de la psychologie, si vous voulez, c'est-à-dire en satisfaisant les besoins, en donnant à l'être humain la possibilité d'être heureux, on pouvait manipuler ses actions, ses pensées, et par conséquent former une société idéale en promouvant ce genre de réaction. Et par conséquent, Mohabbet Vatan, l'amour de la patrie, est un des termes qui sont repris dans le texte des Tanzimates pour justement justifier, légitimer la manière dont ces nouvelles lois vont créer chez les sujets un sentiment d'affection, de loyauté envers le prince, le souverain, et envers l'État, Et ceci se résume dans ce qui deviendra plus tard le patriotisme, c'est-à-dire l'amour de la patrie. Donc un texte qui n'est pas compliqué, et j'insiste encore une fois sur le fait que le turc du texte est très compréhensible, ce qui fait tâche dans les anthologies que l'on pourrait imaginer du verbe de l'État. En général, c'est extrêmement compliqué. Alors, il y a des éléments qui sont encore compliqués. Les Ottomans étaient proustiens sans le savoir. Tout document ottoman consiste en une phrase. Et des qui et des que et des dons. Et c'est extrêmement compliqué à suivre parce qu'au bout de quelques lignes, vous perdez le fil de la logique. C'est une des plus grosses difficultés que nous avons en tant qu'historiens et étudiants de l'histoire de comprendre. Et je suis persuadé que les Ottomans n'en comprenaient pas plus. Il y avait une classe intermédiaire, celle des scribes, dont la fonction première était justement de rédiger ce charabia. Enfin, charabia, j'exagère, et de le comprendre, et que par conséquent, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Mais là, le décret des Tanzimat, il est très lisible, très compréhensible. Il n'a pas encore les éléments que l'on verra surgir, émerger, apparaître dans la seconde moitié du XIXe siècle sous l'influence de l'Occident. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de liste, on ne numérise pas, on ne fait pas de liste. Donc ça rend le texte beaucoup plus difficile à digérer, mais encore une fois, croyez le spécialiste, linguistiquement parlant, sémantiquement parlant, lexicalement parlant, c'est un texte qui est très accessible. Et par conséquent, ça va dans le sens du désir évoqué par le sultan de se faire entendre par toute la population. Donc, voici ce texte, et nous avons parlé donc de ces détails lexicaux. Et ensuite, j'avais commencé à discuter des origines. Encore une fois, la frustration de l'historien de l'Empire ottoman, c'est d'avoir très peu de documentation concernant les antécédents des documents, des textes que l'on juge être importants, voire fondateurs dans l'histoire ottomane. Il n'y a pas de brouillon. Il y en a, ils sont peut-être perdus, il y en a eu, mais quoi qu'il en soit, nous avons extrêmement peu de documents qui nous permettent de reconstituer le processus qui a mené à la constitution d'un texte, aussi bien d'un texte littéraire que d'un texte juridique, d'un texte politique, même, beaucoup plus tard, nous y viendrons un jour, je l'espère, la constitution de 1876, la fameuse constitution qui n'a pas fait long feu, mais qui est un document intéressant. J'ai une étudiante, Aileen Bechirian Kochunian, qui a travaillé longuement sur cette constitution et qui a cherché pendant des mois, si ce n'est des années, des brouillons, des versions antérieures, des versions antagonistes. Rien. Pas rien. Il y a des bribes, mais il n'y en a pas assez pour reconstituer tout le processus. Or, justement, le problème, c'est qu'en histoire, rien ne se résume au produit fini. C'est toujours un contexte et un processus. Donc, il faut, pour n'importe quel texte, être capable de parler de sa naissance, de parler de la manière dont il a été modifié pour arriver à une version, à une dernière version, et ensuite, encore plus important, pas encore plus important, mais très important aussi, il faut essayer de voir la diffusion et la réception. Comment est-il reçu? Jusqu'où est-il diffusé? Est-ce un texte qui ne sera lu qu'une fois et que personne n'entendra? L'arbre qui tombe au milieu de la forêt sans que personne ne le voie, qu'est-ce qu'on en fait en histoire? Ou alors, est-ce qu'au contraire, c'est un texte qui peut être considéré mineur pour des raisons tout autres, a en fait un impact beaucoup plus fort, beaucoup plus impressionnant sur un public que l'on aimerait définir. C'est ça le défi de l'historien, ce n'est pas simplement de mettre bout à bout des textes, des jalons, des bornes kilométriques en quelque sorte d'une histoire politique ou autre, c'est d'essayer de remplir justement les vides qui unissent ces... Et là, nous avons énormément de difficultés parce que certaines traditions n'existent pas ou n'ont pas survécu. L'Occident a l'avantage d'avoir très tôt développé la tradition des procès-verbaux. Quand Carlo Ginzburg raconte l'aventure, ou plutôt la mésaventure du meunier Menocchio, il a une mine d'informations à sa disposition, ce sont les procès-verbaux de l'Inquisition. Et c'est là toute la beauté de la chose. L'Inquisition lui fait un faux procès, etc. Mais tout est marqué, tout est indiqué. L'Inquisition, monstre, c'est un monstre, mais c'est un monstre organisé, et c'est un monstre qui croit en l'importance de maintenir une trace écrite de ce qui est dit, aussi bien par les juges que par les accusés. Et par conséquent, ça vous permet de reconstituer un moment ou des moments en histoire d'une manière extraordinaire. Nous n'avons pas ça, ou du moins, et je crois que c'est un peu l'objectif de ma présentation, nous ne le faisons pas assez parce que nous sommes persuadés que, après tout, il n'y a pas grand-chose, et par conséquent, on a tendance à passer à côté de quelques détails qui permettraient pourtant de reconstituer en partie, ne serait-ce qu'en partie, la genèse d'un texte, d'un mouvement, d'un événement. Et je vous disais donc que pour les Tanzimat, nous avons en gros deux écoles, l'une que j'appelle conventionnelle, mais bon, conventionnelle parce qu'elle est plus ancienne et parce qu'elle se rattache à une tradition historiographique qui est politiquement beaucoup plus conventionnelle, l'une donc revendique les origines occidentales du texte. C'est-à-dire, je vous avais donné des exemples, Shukrani Oğlu, qui trouve dans certains passages du décret des traces de certains articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Moi-même, à chaque fois que je parle de l'odeur des lumières, c'est la même référence, c'est-à-dire que je vois dans l'utilisation de certains termes quelque chose qui me rappelle énormément les lumières et certains auteurs physiocratiques, par exemple, du XVIIIe siècle ou alors des successeurs du XIXe. Alors, une école donc voudrait que Mustafa Reşit Paşa, le ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur à Paris et ensuite à Londres, dont on connaît les rapprochements avec les gouvernements occidentaux, on voudrait donc que lui soit l'architecte en quelque sorte de ce texte, l'auteur presque de ce texte, et par conséquent, on voit dans ce texte se dessiner une politique inspirée par des principes occidentaux, par une philosophie occidentale, par une gouvernance occidentale, et même influencée par des acteurs occidentaux, notamment Lord Palmerston, le ministre des Affaires étrangères britannique à cette époque-là, ou son ambassadeur à Constantinople, à Istanbul, Lord Ponsonby. Et puis, vous avez, depuis un article que j'avais cité de Boutrous Aboumaneh, un collègue regretté de l'université de Haïfa, qui a l'avantage d'être arabe et arabophone, une version très différente où le gros de l'inspiration du décret des Tanzimat viendrait de l'islam. de l'islam, du Coran, de l'islam avec un I majuscule, même si ça ne se fait pas, mais de l'islam en tant que doctrine, en tant que religion, mais aussi, et c'est là qu'il relie en quelque sorte de manière politique et pratique l'islam au décret des Tanzimat, certaines mouvances, certaines confréries religieuses extrêmement présentes, dont les réseaux s'étendent à toutes les provinces de l'Empire et en particulier à Istanbul même, qui sont contemporaines de ce mouvement. Et parmi ces confréries, en fait, il n'en cite qu'une parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est vraiment extrêmement présente, c'est la Naqshbandiya. La Naqshbandiya, les Naqshbandis, c'est une confrérie dont l'origine remonte au XIIe siècle, si je ne m'abuse. Je ne suis vraiment pas un spécialiste en la matière, mais qui prend son nom d'un penseur du XIVe siècle, Bahreddin Naqshband Bukhari, de Bukhara, la Bukhari, qui au départ est connu déjà pour son orthodoxie, donc comparée à d'autres confréries, elle est beaucoup plus au centre, elle est beaucoup plus ciblée sur l'islam sunnite orthodoxe, et qui reprend du poil de la bête au tournant du XIXe siècle, et notamment dans les années 1810-1820, sous l'influence d'un cheikh très particulier, un certain Khalid de Shahrizor. Shahrizor étant une ville d'Irak, connue aussi sous le nom de Khalid de Bagdad, Khalid Baghdadi. Et lui, il meurt en 1827, il va s'initier à la tariqa, à la confrérie des Naqshbandis en Inde, et revenir en terre ottomane pour développer ses réseaux, et la Naqshbandiya va reprendre une nouvelle appellation, elle va se nommer Khalidiya, du nom de ce relais, Khalid al-Baghdadi, après sa mort en 1827. Alors, ce qu'Abou Manneh dit, c'est que cette tradition islamique, elle est très présente à Istanbul au moment, cette tradition confrérique, ce réseau confrérique est très présent à Istanbul au moment de la promulgation des Tanzimat. En fait, il donne des exemples concrets. Pertev Pacha, mort déjà dans les années 1830, qui était un des grands pachas de la période mahmoudienne et qui était le tuteur, en quelque sorte, de Mustafa Reshid Pacha, donc celui qu'on associe tellement avec l'Occident. Pertev Pacha était un loyal serviteur de la confrérie des Naqshbandis dans leur version Khalidi. Il explique aussi que Mehmet Emin Efendi, un ouléma qui avait la responsabilité de l'éducation d'Abdulmejid, du jeune sultan, donc un précepteur, si vous voulez, du prince, était lui aussi de cette mouvance. Il ajoute que Besmi Alem Valida Sultan, c'est-à-dire la reine-mère, la femme, l'une des femmes de Mahmoud, mais celle qui a eu la chance de donner naissance à l'aîné des fils du sultan, Besmi Alem, elle aussi était apparemment proche de ces mouvances-là. Donc, dit-il, en gros, il y a assez de preuves, assez d'évidence pour placer la confrérie Naqshbandi au centre du monde politique, des cercles politiques qui entourent en quelque sorte le palais et les acteurs que l'on associe avec la promulgation du décret des Tanzimat. Rappelons aussi que les Naqshbandis ont pris énormément d'importance sous Mahmoud II dans des circonstances très particulières, celle de 1826. vous souvenez, 1826, c'est l'abolition, et quand je dis abolition, c'est en fait destruction des janissaires, et avec les janissaires, la confrérie des Bektachi, qui, depuis, du moins dans sa tradition, depuis le XIVe siècle, est intimement liée au corps des janissaires. Les Bektachi, que je vous décrivais un peu plus tôt, comme étant extrêmement syncrétiques, extrêmement ouverts vers des interprétations très fluides, très coulantes, si vous voulez, de l'islam, ces Bektachi sont extrêmement puissants dans l'islam populaire ottoman, d'autant plus qu'ils se rattachent quand même à une minorité chiite qui se sent opprimée par le centre sunnite, donc on les voit un peu partout, ils sont très bien implantés dans les Balkans comme en Anatolie. Les Bektachi, donc, faisaient partie, en quelque sorte, de la politique populaire sous Mahmoud. De même que les janissaires. Vous vous souviendrez que les janissaires, on a souvent discuté du fait que ce n'était pas simplement une milice rebelle, ce n'était pas simplement un parasite qui venait se greffer sur l'économie, c'était à part entière un corps social, un groupe qui était très intimement mêlés dans la vie quotidienne de la population d'Istanbul. Donc les Bektachi, c'est ça, mais ils sont tellement proches des janissaires qu'en 1826, ils seront souvent exécutés, mais pour la plupart des cas, ils seront tout simplement exilés, et tous les couvents, tous les dalgiah, tous les tekkeh, donc les couvents, si vous voulez, des derviches Bektachi, seront soit détruits, soit confisqués pour être remis à qui ? Au Naqshi, au Naqshbendi. Donc c'est un transfert, en quelque sorte, de biens au sein de l'hétérodoxie ou du soufisme ottoman par la seule volonté du sultan, et par conséquent, les Naqshbendi, considérés beaucoup plus hétérodoxes et donc plus proches du pouvoir et de la politique du pouvoir, se voient récompensés, en quelque sorte, de leur loyauté avec ce transfert de propriété des Bektachi. Donc, il y a un contexte qui va dans le sens de ce que Abou Maneh dit. Et ceci, bien sûr, s'inscrit aussi dans un problème beaucoup plus vaste, celui de l'historiographie. Nous revenons à ce que j'évoquais quand je parlais de vision conventionnelle. C'est-à-dire que l'historiographie de la modernité ottomane et surtout de sa transition au XXe siècle dans un système républicain, donc la Turquie républicaine, est quelque chose qui, depuis les années 40-50, occupe les sciences sociales, les humanités, en particulier dans le monde anglo-saxon, avec une prééminence d'une conception moderniste, laïcisante, de ce grand récit. C'est-à-dire, alors le modèle, si vous voulez, de ce genre d'histoire, c'est Bernard Lewis. Bernard Lewis, que l'on connaît bien pour avoir été l'exemple même de l'orientaliste anti-saïdien, quelqu'un qui revendiquait fortement la continuité avec la tradition orientaliste du XIXe siècle et qui ne supportait pas les accusations qui étaient portées contre ce genre d'historiographie par Edward Said à partir de la publication de son Orientalism, l'orientalisme, en 1978. Et ce grand récit, c'est un grand récit qui, comme tous les grands récits, est téléologique, c'est-à-dire qu'il aboutit à une fin que l'on connaît déjà, et c'est la téléologie de la modernité occidentalisante, c'est-à-dire que, selon ce récit, l'histoire de l'Empire ottoman finissant et de la République de Turquie se résume à au succès, en quelque sorte, de la modernité occidentale. Donc, les Tanzimat sont un moment fondateur, et bien sûr, en tant que moment fondateur d'un tel récit, les Tanzimat ont intérêt à être expliqués en des termes qui se rattachent à la politique, à la philosophie occidentale. Et de là, on procède à 1856, 1876, les jeunes Turcs et leur amour de Darwin et de la modernité, de la sociologie, etc. Et ensuite le kémalisme, et bien sûr l'armée étant au centre de cette vision positive, en quelque sorte, d'une modernisation par le haut selon des critères imposés par l'Occident. À partir des années 70-80, on commence à en avoir assez de cette vision des choses. Pourquoi ? Déjà parce qu'elle est un peu trop simpliste, mais aussi parce qu'elle finit par raconter l'histoire d'une modernité par le haut avec une historiographie qui, elle aussi, est par le haut. C'est-à-dire que dans cette historiographie, dans cette histoire de l'Empire ottoman, le peuple n'a pas de place. Il ne participe pas. Il subit, ou alors il profite, parce qu'il y a toujours un côté positif, mais il est passif face à l'action menée par ceux que l'on définit comme étant les meneurs de la modernité à l'occidentale. Encore une fois, aucun récit, aussi simpliste qu'il soit, n'est entièrement faux. Il y a effectivement, et c'est quelque chose qui est extrêmement problématique, il y a dans la tradition de la modernité ottomane et turque cette tendance au changement par le haut, l'imposition du changement, sous le nom de la modernité, du progrès, de la laïcité, etc. Et dans ce système, et je crois qu'on en voit des conséquences aujourd'hui, dans ce système, il y a les laissés pour compte, il y a ceux qui ne sont pas pris en compte dans cette évolution et qui, dans le meilleur des cas, sont tout simplement passifs et contents d'avoir été menés dans le droit chemin, ou alors, et c'est peut-être le cas depuis les années 60-70, ou alors trouve dans l'islam une réponse, une réaction à ce discours par trop boniste, par trop occidentalisant. Et en historiographie, c'est à partir des années 80 qu'on a commencé à se poser la question de l'importance éventuelle de l'islam dans la part des choses, dans cette histoire. Et par conséquent, vous avez de grands noms. Sherif Mardin est un des premiers, en tant que sociologue, à s'être penché sur le phénomène de l'islam, sur le phénomène des penseurs islamiques, des confréries, et leur rôle dans une modernité. Et c'est quelque chose qui a été repris encore une fois par une sociologue, Nilufer Algeley, que vous connaissez probablement parce qu'elle travaille à Paris, elle est à l'École des hautes études. C'est elle qui a parlé de, qui a associé le voile à la modernité, c'est-à-dire apporter une réponse, une explication à un phénomène qui était dans la grande tradition occidentalisante, laïcisante, tout simplement mis de côté comme étant soit contraire à la modernité, soit une sorte de paraphénomène qui n'avait pas vraiment d'importance. En histoire, Carter Findlay, que j'ai cité l'autre jour pour ses travaux sur la bureaucratie dans les années 80, en 2010 a publié un ouvrage que je ne dis pas de bêtises, Turkey, Islam, Nationalism and Modernity. Donc Turquie, Islam, Nationalisme et Modernité, une histoire, 1789 à 2007. Très intéressant parce que c'est un des premiers cas où modernité et islam étaient mis côte à côte dans l'énoncé d'un programme historiographique. Alors, il faut comprendre qu'Abou Maneh, il s'inscrit un peu dans non pas simplement ce ras-le-bol, parce que la réaction ne justifie rien, c'est le fait qu'on voudrait quand même ne pas se contenter d'une histoire qui se dessinerait tellement en surface sans pouvoir expliquer des mouvances alternatives ou parallèles qui s'inscrivent dans un contexte social, politique, culturel, religieux, autre que celui de la modernité consacrée. Et par conséquent, aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un retour de bâton, il y a toujours le phénomène de balancier, la plupart des historiens ont tendance à épouser, à reconnaître cette interprétation comme étant beaucoup plus plausible et beaucoup plus logique dans le contexte historique dans lequel elle se situe. C'est-à-dire que sans nier la présence d'une influence occidentale, etc., le gros du décret des Tintimates peut s'expliquer par des mouvances, des pensées, des trains de pensée qui s'inscrivent dans la tradition islamique. Je vous ai annoncé la couleur tout de gauche. Je ne partage pas cette opinion. Non que je ne partage pas la nécessité qu'il y a effectivement de regarder, comme disent les Américains, « outside of the box », en dehors de la boîte, c'est-à-dire ne pas se limiter à ce chemin fort étroit et fort déterministe, mais dans ce cas précis, je crois que j'ai de quoi prouver que cet argument n'est pas vraiment très solide. Je vous avais donné quelques pistes que Abou Manet avait évoqué dès les années 90 pour expliquer, pour étayer sa théorie. Il avait parlé d'un décret du 17 juillet 1839 qui reprenait un peu la terminologie des Tanzimats et disait donc voilà un antécédent, voilà une sorte de prélude. Et or, je trouve que ce qu'on y trouve de similaire s'inscrit dans la rhétorique extrêmement répétitive et par conséquent assez peu profonde du discours politique de l'Empire, et dans un point unique, extrêmement ciblé, celui de la vénalité des charges. Et quelque chose qui avait déjà créé un mouvement de rejet ou de réaction sous Mahmoud. Mais sinon, aucun, à part l'abolition du trafic des places, aucun des principes des Tanzimats ne se retrouve dans ce texte. Autre texte que les défenseurs de cette version islamisante invoquent, c'est ce document qui n'est pas daté, mais qui est une sorte de décision d'un conseil avec au sommet un Hatte Humayun. Pour la curiosité et pour la beauté des choses, sachez que c'est un format typique pour une pétition qui est soumise au sultan. Voilà. Et au-dessus, vous avez la réponse du sultan, toujours au-dessus. Hein. Et en bas, vous avez les cachets des participants. Ou des gens qui pétitionnent. Bon. Et ce texte, donc, le voici, avec 38 cachets de gens que l'on arrive à identifier et qui se partagent plus ou moins. On reconnaît, par exemple, ici, Mustafa Asim, ici, par exemple, le Cheikh d'Islam. On trouve Saïd Saïd, Raouf, Mustafa Rachid. Donc, on retrouve tous les principaux acteurs avec un équilibrage assez notable de la partie ouléma et de la partie askeri, donc des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires et des membres du clergé, entre guillemets. Et ce texte est quelque chose que ces historiens utilisent pour étayer la thèse d'une discussion préalable des Tanzimats qui aurait été scellée par les participants à ce conseil et ensuite reconnue comme utile par le sultan afin d'être enfin proclamée, promulguée en 1800. le 3 novembre 1839. Et on y trouve, alors quelques passages, l'octroi, selon les préceptes de la Sainte Charia, d'une sécurité parfaite en matière de la vie, de la propriété et de la protection de l'honneur de tous les sujets de l'État sublime, tant musulmans qu'appartenant aux autres nations. Alors là, ça colle vraiment, c'est pas comme celui de juillet. Là, vraiment, on a une reprise d'un des thèmes principaux. De même, les procédés criminels seront désormais entendus publiquement, voilà, et exécutés ou empoisonnés secrètement. Encore une fois, ce truc qui revient sans cesse, là aussi, ça colle parfaitement. C'est la même rhétorique que les tintimates. Depuis très longtemps, ni les glorieux préceptes du Coran, ni les nobles lois n'ayant été respectés, tout à fait le préambule du 3 novembre, l'influence des pratiques corrompues actuelles, la situation ayant encore empiré, il est clair que tant qu'une nouvelle forme d'administration n'est pas établie, encore une fois, Et puis, la promulgation d'un décret impérial plein de discernement, ils le sont tous, bien sûr, afin d'établir et d'asseoir ce qui servira de base. Si vous saviez le temps que j'ai passé à faire ces traductions, parce qu'on essaye de rester quand même fidèle au langage fleuri de l'époque, ce qui servira de base aux lois nécessaires équivalent au renouvellement et à la régénération de la religion, de l'État, de l'Empire et de sa population, on ne peut imaginer le plus grand hommage à la charia. Encore une fois, ni de plus grande bonté et de plus grande clémence à l'égard de l'Empire et de sa population. En vérité, ces bienfaits constituent une œuvre bénéfique, etc. Bon, ça colle parfaitement. Et là, effectivement, le problème étant que le document n'est pas daté. Alors, comment prouver qu'il est vraiment antérieur au décret de 1839 ? D'autant plus que lorsqu'on se penche sur le Hatte Humayun, c'est-à-dire la réponse du sultan, le décret lui-même, puisque les bureaucrates ne peuvent que proposer. Il propose, lui dispose. Donc, c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, ça aussi, j'aime bien vous montrer des petits trucs qui sont amusants et que certains historiens ne connaissent même pas. Vous avez là, par exemple, la suite des titres accordés aux destinataires, c'est-à-dire le sultan, Chevketlou, Kerametlou, Merhabetlou, Kudretlou, Velini, Metemefendem, mon bienfaiteur, notre bienfaiteur, majestueux, sublime, etc. Et ensuite, ce que la plupart des gens ratent, c'est que vous avez Padishahum, mon sultan, qui se trouve tout en haut, perdu en général dans le commentaire du sultan. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que le commentaire, il vient après. Et par conséquent, vous avez un texte où vous avez cette suite d'épithètes. Et ensuite, vous avez le vocable qui... Et il est placé tout en haut. C'est le respect, encore une fois. Donc, sachez que si vous trouvez un document avec un petit paradisharum ou sultanum qui se promène tout en haut, dans le coin gauche, c'est exactement ça. C'est qu'on le surélève. Alors, voici le texte. Mon vizir, en vérité, ces propos découlant de la réunion des sages et des esprits sont fort bien observés, et comme il est reconnu par tous que la force ne sera pas restaurée et l'ordre et la tranquillité ne seront pas rétablis tant que de nouvelles lois ne sont pas promulguées, nous avons promulgué notre décret impérial au sujet de cette heureuse question. Il parle dans le passé. Ça n'est pas évident. Encore une fois, c'est une référence à quelque chose qui a été fait. Et par conséquent, alors, il y a un problème. Il y a d'autant plus un problème que j'ai trouvé une copie de ce document. C'est une copie, et d'ailleurs on le voit tout de suite, il commence ici, et au lieu de sceau, vous avez l'inscription des noms. C'est une copie enregistrée par la bureaucratie. Et cette copie, elle est datée. Et elle est datée d'une date qui correspond, si je ne me trompe, au 4 janvier 1840. Donc, 2 mois, 3 mois après l'événement. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Tout historien sait que l'enregistrement peut être fait, a pu être fait après. Mais quoi qu'il en soit, moi, quand je combine, d'une part, le passé utilisé par le sultan pour parler de la promulgation et cette date d'enregistrement tardive, je me pose des questions. Et je pense qu'une explication, ce serait que ce texte ne précède pas les tanzimates, mais qu'il les justifie a posteriori, et que c'est pour le pouvoir un moyen de justifier, légitimer un décret sans avoir à passer par tous les préliminaires qui auraient peut-être été nécessaires. Donc c'est un fait accompli. Mais quoi qu'il en soit, j'hésiterai très fortement à utiliser ce texte comme preuve de ce que les tanzimates étaient en train de cuire, de bouillir déjà avant la promulgation, d'autant plus que l'argument n'est pas tant qu'il y ait un précédent. Je vous avais dit que une correspondance diplomatique de l'ambassade de France faisait état le 17 octobre. Donc, trois semaines avant l'événement, faisait état du fait que Reshid était en train de travailler un document important. Et le chargé d'affaires résumait exactement les trois principaux points. Donc, il y a bien sûr eu des précédents, mais ce que Abou Manet et d'autres disent, c'est que le fait que ceci soit signé par une sorte de corps consultatif équilibré entre les oulémas et les askéris prouve que la part religieuse était très présente dans la préparation du texte. Encore une fois, je ne peux pas le prouver, mais je peux le remettre en question, et c'est ce que je fais. Mais ce qui est évident, c'est qu'une fois la promulgation faite, le sultan va prendre ça très au sérieux, le gouvernement, le sultan a 16 ans, alors encore une fois, c'est une des grandes questions, est-il vraiment impliqué ? Ou au contraire, est-il victime en quelque sorte d'un fait accompli gouvernemental, une sorte de coup d'État, si vous voulez, de la bureaucratie ? On en reparlera. À force de vous dire qu'on en reparlera, ça commence à bon. On reparlera de beaucoup de choses. Du 10 au 18, les Ottomans parfois datent par décade au lieu de dater par jour. La première décade de je ne sais quel mois, un firmament est promulgué qui propose justement de disséminer, de diffuser à travers l'Empire les principes du décret du 3 novembre. Il explique bien, et ça c'est le sultan parlant, c'est en leur présence, des fonctionnaires, des vizirs, etc., que je me suis engagé par serment à observer tous les règlements que renferme mon hâte-chérif, jamais autoriser la moindre chose qui puisse paraître peu conforme aux lois établies. Bon, encore une fois, ils répètent, ils se sont engagés eux aussi, moi j'ai juré, mais eux aussi se sont engagés par serment à servir mon empire avec zèle et fidélité. Ils ont donc juré à mon exemple de s'abstenir de toute infraction aux lois établies, soit verbalement ou par écrit, etc. J'ai ordonné que, d'après ce qui vient d'être dit, parfaite sécurité fut octroyée désormais. Donc on répète en quelque sorte, en des termes beaucoup plus clairs, les préceptes des tanzimates, depuis le premier jusqu'au dernier, depuis mon vizir jusqu'au simple berger. Voilà, on est revenu à nos moutons. Chacun pourra disposer de sa fortune à son gré et sans que nul puisse y mettre obstacle. Et c'est un document qui s'adresse aux gouverneurs provinciaux, donc lorsque ce firmant te parviendra, empresse-toi de réunir dans une vaste place tous les cheikhs, oulémas, notables et autres habitants du chef-lieu, des bourgs et des villages, pour leur donner lecture de ce firmant. Que personne ne se laisse induire en erreur, ça j'adore, et je trouve que c'est très intéressant, que personne ne se laisse induire en erreur quant à ce que je dis dans mon hâte-chérif relativement aux impôts, et qu'on ne s'imagine point par erreur que j'ai entendu accorder aux divers sujets de mon empire exemption complète de droits et d'impôts. C'est amusant, c'est un petit détail amusant, ce qui prouve que il y a une réaction populaire qui probablement se dit « Oh, chic, on ne va plus payer d'impôts », qui a mal lu, mal compris, ou qui a interprété à sa manière la teneur du décret. Et là, on corrige le tir. On dit l'égalité, oui, enfin l'égalité devant la loi, etc., mais il n'est pas question de vous exempter de trucs. Substituer à l'administration irrégulière qui a régné jusqu'à présent, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment dans le décret des Tanzimates. Il n'y a pas de référence à un ancien régime. On parle des erreurs pendant 150 ans, etc., mais on ne montre pas du doigt le régime précédent, c'est-à-dire Mahmoud II, son père. Là, c'est quand même plus gênant. Substituer à l'administration irrégulière qui a régné jusqu'à présent un mode plus rationnel et plus en harmonie avec les besoins de la nation musulmane. Donc là aussi, mon problème, c'est qu'il faut faire la part entre ce qui est purement rhétorique et ce qui est sérieusement discuté. Ça, je crois que c'est un point très important, puisque rhétorique et argumentation ne sont pas forcément la même chose. Conformité au précepte de l'islam ne veut pas dire forcément qu'on se destine à rétablir la loi islamique. L'inspiration et la façade ne sont pas la même chose. Et je crois que le problème, justement, de ceux qui vont dans le sens d'une interprétation islamique ou d'inspiration islamique ont tendance à faire un peu trop mousser la partie rhétorique pour en tirer la conclusion que c'est vraiment l'essence de l'inspiration, l'essence de l'argumentation derrière ça. Et j'en arrive à ma dernière étude textuelle, mais attendez, elle vaut le détour, puisque j'ai trouvé ce que les Américains, je les cite souvent, en sciences sociales, c'est inévitable, ce que les Américains appellent the smoking gun, le pistolet qui fume encore, c'est-à-dire la preuve concrète de ce que l'on voulait prouver. L'arme du crime, en quelque sorte, mais fumante encore. Voilà, j'explique. Voici, encore une fois, je reprends le format de ce que j'avais fait précédemment, c'est-à-dire une colonne pour le texte turc, pour ceux que cela pourrait intéresser, une traduction littérale, c'est-à-dire la mienne, du turc, et ensuite le texte français. Et ça, c'est tout au début, c'est dans le préambule. Et personne n'a remarqué ça, c'est très intéressant. Très intéressant, on a chacun, on s'amuse comme on peut. Mais bon, mais pour moi, ça l'est vraiment, parce que c'est du concret. J'ai cette obsession du concret. C'est tout un passage où, vous voyez, si j'avance, vous verrez encore mieux. Voici la partie en rouge. Elle n'apparaît pas en français. Et que dit-elle ? Vu la situation géographique des territoires de notre État sublime, ses terres fertiles et les capacités et talents de son peuple, si les moyens nécessaires sont déployés, il est clair qu'avec l'aide de Dieu, les conditions désirées seront atteintes en 10 ou 15 années. Et ensuite, par conséquent, fort de notre confiance en l'aide et en la grâce du Créateur et du secours spirituel du prophète, nous jugeons nécessaire et important d'établir et d'instituer certaines lois destinées à assurer désormais la bonne administration de l'État sublime. Et ce que vous avez dans la version française, officielle, ça n'est que le second paragraphe. Ainsi donc, plein de confiance dans le secours du Très-Haut, etc. Bon, quelques différences de traduction, c'est tout. Mais qu'est devenu cette partie ? Et surtout, pourquoi disparaît-elle en français ? L'inverse m'aurait moins surpris. C'est surtout ça. Parce que déjà, Mevki et Geography, hein, situation géographique, ça fait partie justement de ces néologismes de l'époque. Les Ottomans, Geografia, ils connaissent un peu depuis le XVIIe avec Karatip Celebi, etc., mais ça ne fait pas partie du vocabulaire courant. Et c'est quelque chose qui, en fait, rappelle tout autre chose. Qui parle des ressources économiques, des ressources naturelles de l'Empire ? Il y en a un. Il y a un type qui en parle, et c'est David Urquhart, un Écossais, un Écossais qui, en 1833, publie un ouvrage qui s'intitule « Turkey and its Resources », qui a été traduit en 1836, quelques années plus tard en français, avec une introduction de Gustave d'Estal. Donc c'est justement un de ces piliers de la politique britannique qui veulent promouvoir le libre-échange et l'utilisation au maximum des ressources naturelles d'un empire qui, jusqu'ici, n'a pas su en tirer tout le profit qu'il aurait dû. Donc, ce texte, j'aurais été beaucoup, beaucoup moins surpris de le voir apparaître en français et disparaître en turc. Et c'est l'inverse. Je n'ai pas d'explication. Mon explication, elle concerne le texte lui-même, puisque voici un mémoire de Reşit Paşa, Mustafa Reşit Paşa, le 12 août 1839, un mémoire qu'il remet à Palmerston lors d'une entrevue à Londres. Je lis. Le sol de l'Empire ottoman est extrêmement riche et fertile. Sa position géographique, des plus heureuses, est surtout favorable au commerce. Ses populations, par leur nature intelligente, sont aptes à tout. Lorsque ces populations s'attacheront au système nouveau, réclamé désormais par la nécessité et d'où découlent des sages réformes et la civilisation, nul doute que dans un temps très court, elles n'en obtiennent les résultats les plus salutaires et les plus nombreux. Alors, je ne pense pas fantasmer, c'est la même chose. C'est Reşit. C'est-à-dire que vous avez dans les Tanzimat, dans la version française des Tanzimat, un paragraphe qui disparaît en turc, mais qui est directement inspiré, c'est presque du copier-coller, d'un mémoire que l'on sait être de la main de Reşit Paşa et que l'on arrive à situer dans un contexte où, juste avant son retour à Constantinople, il est reçu par Palmerston pour parler des affaires d'Orient, bien sûr l'Égypte, mais aussi les réformes qu'il faudrait introduire dans le système. Donc là, ça c'est une répétition tout à fait inutile, là tout d'un coup, pour moi, ça a été une illumination. C'est-à-dire que je n'en doutais pas vraiment, mais au moins, j'ai un smoking gun. Je peux prouver que Reşit a mis la main à la pâte, qu'il est responsable pour du moins une partie de la rédaction de ce truc. Et que ça se relie à un moment fort de son ambassade à Londres, où il est en pourparler avec Lord Palmerston concernant, et en plus, je vous ai dit, dès qu'on parle de ressources et de situations géographiques, etc., il y a toute une littérature, surtout celle de Urquhart, qui s'inscrit tout à fait dans cette vision physiocratico-libre-échangiste des Anglais concernant l'Empire ottoman. C'est ce qui m'a poussé à lire, avec un peu plus d'attention, ce mémorandum qui se trouve dans les archives anglaises. J'ai une explication, en tout cas, pour l'absence de la moindre remarque parmi les historiens. Je sais que les historiens turcs, lorsqu'ils veulent parler des Tanzimat, ils utilisent le texte en turc. Les historiens occidentaux, lorsqu'ils veulent parler du Tanzimat, ils utilisent la version française ou alors des traductions en anglais qui sont faites à partir de la version française. Donc, et ils s'intéressent uniquement, et c'est légitime, à ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire à voir comment tel concept est traduit dans une langue ou dans une autre, mais ils ne sont pas allés voir qu'il y avait un petit paragraphe qui manquait, et le petit paragraphe, il est tombé entre les interstices de ces deux traditions. Donc, les Turcs ne se l'expliquent pas, ou du moins, ils n'ont aucune raison d'aller voir si ce paragraphe a quelque chose de particulier. Les autres, les Occidentaux, de toute façon, ne l'ont jamais vu. Et ce sont les autres qui ont accès au texte de Réchid, puisque c'est un texte rédigé en français qui se trouve dans les archives britanniques. Vous voyez un peu, ça explique un peu comment quelque chose peut complètement disparaître. Si ce n'était pour moi, bien sûr. Je me suis donc penché sur le texte de Réchid, parce que ce qui est décevant, si vous voulez, pour ma théorie, c'est que le texte de Réchid, ce n'est pas un brouillon des Tanzimates. C'est un texte assez différent, avec une argumentation différente, des points beaucoup plus saillants, beaucoup plus intéressants du point de vue de la politique ottomane. La mauvaise direction imprimée précédemment aux affaires intérieures de la Sublime Porte a été pour ces sujets une calamité véritable. Depuis 13 ou 14 ans, on retranche 13 de 1839, ça donne 1826. Ce n'est pas un hasard. Il parle des réformes mahmoudiennes. Loin qu'on vit naître le moindre bien de tout ce qu'on avait décoré pompeusement du nom de réforme, ces prétendues réformes n'ont fait que venir ajouter de nouvelles vexations aux tyrannies du passé. Il serait impossible de faire connaître dans toute son étendue. Le mécontentement du peuple n'est pas né, comme on le croit en Europe, de son peu de disposition à la civilisation ou de toute autre cause provenant du fanatisme, mais seulement de tous les maux d'une tyrannie insupportable, tandis que de l'intérieur et du dehors, des intrigues, etc. Cependant, alors que les institutions nouvelles seraient conduites avec sagesse et discernement, chacun éprouverait les avantages réels d'un système immuablement établi. À mesure que la tyrannie diminuerait, l'affection pour le gouvernement s'accroîtrait. Donc, on retrouve la logique, si vous voulez, des Tanzimates, mais dans un contexte qui est politiquement beaucoup plus cinglant. On ne parle plus des erreurs du passé, le manque de respect de la charia, etc. Non. On parle de l'Ancien Régime. On parle de Mahmoud. On parle des prétendues réformes de Mahmoud qui, en fait, n'ont abouti qu'à une forme de tyrannie, et c'est ça qu'il faut corriger. Jusqu'à l'époque de leur destruction, les janissaires ont été la cause de la mauvaise direction des affaires publiques. Mais depuis, l'action du gouvernement n'a été entravée en aucune manière par le peuple. Si les nouvelles institutions dont le sultan Mahmoud, il est nommé cette fois-ci, s'est montré partisan, ont rencontré quelquefois des difficultés, si presque toutes elles sont restées à leur point de départ, sans faire un pas en avant, la cause ne doit être attribuée qu'à l'orgueil du souverain qui les a fait consister seulement dans de vaines démonstrations dont aucun fruit salutaire ne pouvait résulter pour le peuple. Les puissances de l'Europe savent à quel degré était progressivement parvenue la tyrannie des empereurs ottomans quand, depuis la destruction des janissaires, le sultan Mahmoud ne voulut désormais rien entendre. C'est presque du Fillon. Vraiment, il est en train de régler des comptes avec une administration à laquelle il a participé, mais dont il prétend se dissocier en mettant le blâme sur Mahmoud. Ça, c'est très intéressant, parce que politiquement, c'est plus réaliste. On comprend que la plupart des griefs qui sont énoncés dans les Tanzimates, ils ont à voir avec un exemple concret dans un passé très récent, et que par conséquent, ça n'est pas vraiment que du blabla, c'est un désir vraiment de corriger le tir, de rétablir un ordre. Et c'est là qu'on voit, l'instabilité de son opinion et de son esprit, donc il est fou, il est devenu fou à force de tyrannie, etc. On l'a vu déposer un ancien ministre des Affaires étrangères, Saïda, c'est Saïd en fait, Effendi, le plus honnête homme de son empire, puis le faire empoisonner. Et cela pour avoir été d'un sentiment opposé à la guerre contre la Russie, tandis que son successeur, Pertev Pacha, qui souscrivait à cette guerre, quoiqu'il en vit bien tous les dangers, ne put échapper au cruel ressentiment dont les suites fatales furent différées, mais dont il devint enfin la triste victime 7 à 8 ans plus. Finalement, on parle de poison. L'affaire des poisons, c'est ça. Et Pertev Efendi, Pertev Pacha, c'est le mentor de de Réchid. Réchid est aussi en train de régler des comptes personnels. Il veut rétablir en quelque sorte la justice qui a été niée à son mentor. Et finalement, on voit que l'empoisonnement, c'est du concret. C'est une référence à quelque chose qui a eu lieu. Et par conséquent, ce qui a l'air d'une sorte de fantaisie dans les Tanzimat se rattache en fait à quelque chose de très, de bien concret. Il est à croire que la mort de Sultan Mahmoud apportera du soulagement à cet ancien mal, etc. Mais la jalousie des grands empires... Le jeune âge du sultan permet aux puissants amis de lui montrer la route à suivre. Alors, c'est intéressant parce que Réchid, il est tellement occidentalisant qu'il invite les puissances à l'ingérence. Il les invite à participer à ce renouveau. Il leur attribue un rôle important, celui de montrer le droit chemin aux Ottomans par le haut, par le prince. Et la force des oulémas a cessé d'être la même et les moyens à prendre pour remédier à l'ancien mal présentement signalé ne portent aucune atteinte aux lois du Coran. C'est-à-dire qu'on voit que toute cette histoire de la légitimation des Tanzimat dans le Coran, montrer que en fait on est en train de défendre le Coran, etc., ça fait partie d'une rhétorique qui est au cœur de la démonstration de Réchid Pacha. Et là, il y va franchement, puisqu'il discute de l'ingérence des grandes puissances. Mais, dira-t-on peut-être, le remède à ce mal ne saurait être apporté sans une sorte d'invasion sur le terrain de l'administration intérieure de la Sublime Porte. Une semblable conduite serait contraire aux droits respectifs des nations. D'ailleurs, la soumission aveugle des musulmans aux lois du Coran et leur fanatisme reconnu ne manquerait pas de leur faire repousser toute proposition dictée par les puissances européennes. Ça, c'est un argument qu'il prédit. Pour répondre à cette objection, il suffirait de demander si cette invasion sur les droits respectifs des nations aurait pour but aucune action nuisible à un peuple. Et si, lorsque sa conservation serait réclamée par l'équilibre de l'Europe, il ne peut y avoir aucun mal et aucun inconvénient à s'attacher à tout ce qui doit faire la force et la prospérité de ce peuple. Dût-on y parvenir sans cependant dépasser de certaines limites qu'en s'immisçant à son administration intérieure. C'est mal écrit, mais on comprend vite. Il dit, en gros, si c'est pour le bien de l'Empire, « Buyurun », comme on dit en turc, « allez-y ». Participer à cette régénération. De plus, les propositions qui lui seraient faites, ne venant pas d'une seule nation, mais bien de l'alliance de toutes les grandes puissances, par la suite, ce cas exceptionnel ne pourrait servir ni de prétexte ni d'antécédent à aucune d'entre elles pour s'ingérer seule dans les affaires intérieures de la Sublime Porte. C'est-à-dire, c'est l'inversion, en quelque sorte, de la fameuse devise de l'impérialisme, diviser pour régner. Là, c'est diviser pour être dirigé, c'est-à-dire diviser l'Occident, reconnaître sa tutelle, mais à condition de les diviser afin d'éviter le risque suprême, celui de la colonisation par une puissance. Et il faut savoir que à cette époque-là, que craignent les Ottomans le plus ? La Russie. Puisque la Russie est une puissance qui a un droit d'ingérence, qui s'est montrée capable d'envahir pratiquement l'Empire ottoman pour son propre bien en 1833 pour la défense contre Mehmed Ali. Et c'est là qu'est tout le problème. Donc, plutôt que de tomber sous la coupe des Russes, soumettons-nous à la volonté divisée des grandes puissances. Divisés, ils ne nous coloniseront pas, ils nous montreront le droit chemin. Je n'épouse pas ces visions, je vous les énonce. Et encore une fois, des références, verser le sang des hommes et les dépouiller de leurs biens, sans autre motif que la haine ou la vengeance, est un crime que ne saurait tolérer aucune loi des États absolus de l'Europe. C'est intéressant parce que là, il explique bien que les libertés dans les Tanzimat, ce n'est pas vraiment pour le peuple. La défense des biens, la défense de la vie et de la propriété, c'est pour ceux qui ont été dépossédés si facilement par Mahmoud. ce sont les grands, les dignitaires, les hommes politiques de la classe dirigeante qui n'ont de dirigeant que le poste, tant qu'ils le conservent, avec le bon vouloir du sultan. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il met, apparemment la question a été évoquée, des libertés, là il met un bémol, il est clair, il dit que si les propositions à faire au divan paraissent se rattacher d'après le nom généralement reçu à ce qu'on appelle des libertés, il n'y aurait point à se méprendre. Et cela ne saurait assurément donner motif à aucune objection de la part des puissances dont les gouvernements sont absolus. Et oui, parce qu'on parle de l'Autriche, on parle de la Russie, on parle de gouvernements absolus qui ont en horreur la moindre mention de liberté appliquée au peuple. Metternich est complètement contre ce genre de vocabulaire. Donc Rachid rassure Palmerston et par le biais de Palmerston le Conseil de l'Europe en leur disant ce qu'on appelle des libertés, c'est pas vraiment des libertés, ne vous inquiétez pas, car il ne s'agirait nullement d'obtenir des libertés, mais uniquement celles de la vie et la fortune. Les sûretés générales consacrées déjà par les lois civiles et religieuses de l'Empire, lois dont on ne ferait que conseiller à l'administration intérieure de la Sublime Porte, la salutaire exécution. Donc, vous inquiétez pas, c'est en fait quelque chose qui est très ciblé et qui concerne uniquement la sauvegarde de l'indépendance, de l'autonomie, de la sûreté des gens qui étaient inquiétés par la tyrannie de Mahmoud, c'est-à-dire les dirigeants. Et c'est d'ailleurs dans un commentaire, encore une fois, diplomatique, un petit rapport de Constantinople, l'auteur dit « c'est incroyable, les funérailles de Mahmoud ont révélé un aspect extrêmement intéressant de la chose. Tout le monde dans le gouvernement est très content de le voir partir et la population est en pleurs. Ce qui prouve, je ne dis pas parce qu'au sein de la population, il avait une mauvaise réputation, etc., mais c'était le Gaoul, etc. Mais quand même, on voit bien que ce qui est visé par l'étincimate, ça n'est pas vraiment le rétablissement d'une sorte d'ordre et de justice pour la population, c'est un peu un coup d'État interne, un désir de museler la tyrannie en puissance, maintenant que le sultan est mort et que son fils n'a que 16 ans, et essayer d'imposer au gouvernement une sorte de charte de ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, en y insérant d'autres sujets, mais en gros, c'est ça. Et par conséquent, pour finir, j'y ai passé quelques heures, je vous ai dessiné les tanzimates. Après tous ces textes, le véritable défi, c'est d'essayer de résumer le phénomène en un schéma. Et voici, je vous l'offre, avec les tanzimates au milieu et les causes possibles, les inspirations possibles, les interactions possibles qui ont mené à ce document. Je commencerai par ce qu'il y a de plus traditionnel, le côté purement ottoman, le cercle de justice, quelque chose que les Ottomans pratiquent depuis le XVIe siècle. C'est ce cercle un peu tautologique où on dit que pour que l'État subsiste, il faut une armée. Pour qu'il y ait une armée, il faut des impôts. Pour avoir des impôts, il faut des contribuables. Il faut que ceux-ci soient administrés avec justice, ce qui les rend productifs. Et ce qui permet d'avoir de la justice, c'est un État fort. Donc, vous avez bouclé la boucle, et comme ça, vous justifiez la force et la présence de l'État. Et c'est Ibn Khaldounien, ça, c'est vieux comme le monde, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la rhétorique ottomane. Et puis, vous avez bien sûr la rhétorique islamique. Donc, la rhétorique impériale, elle se décline sous forme du cercle de justice, mais aussi de ce que les Ottomans appellent des adalet-name, c'est-à-dire des firmans qui, en gros, disent « je vous ai compris ». C'est-à-dire qui fournissent la justice, d'une manière assez rhétorique, mais qui prouvent bien que l'État, à son sommet, le sultan, est là pour pour la justice, pour assurer la justice. Adalet, c'est un terme qui revient sans cesse. Et puis vous avez la littérature, les miroirs de princes, les Nasihatnameh, la littérature des conseils, si vous regardez Kochibei au XVIIe siècle, etc., c'est à peu près le même format. Et on parle à peu près des mêmes choses. On parle de la vénalité des postes, on parle de la répartition des impôts, on parle de la protection des... Bon, donc il y a un élément, et ça conforte en quelque sorte les partisans de cette vision interne, locale, domestique, musulmane, appelez-la ce que vous voulez, des Tanzimat. Vous pouvez y rajouter la philosophie islamique. Al-Ghazali a lui aussi des arguments pour la protection des individus. La charia a 5 missions en vie et c'est à peu près ces principes de base de la liberté individuelle, des biens, etc. Vous avez ce que je vous avais décrit, c'est-à-dire la confrérie Naqshbandi Khalidi qui s'insère dans ce processus et qui va en quelque sorte redistribuer la rhétorique islamique pour le respect de la charia. Vous avez le passé immédiat, c'est-à-dire les réformes de Mahmoud II qui débouchent en 38, donc un an et demi avant, sur un document qui s'appelle déjà Tanzimat Hayriyeh. Donc, Tanzimat, le terme était déjà utilisé en 1938 pour parler de Tanzimat Hayriyeh, donc les réorganisations de bon augure, un peu comme le Vakaya Hayriyeh pour la destruction des janissaires. Tanzimat Mulkiyeh, réorganisation administrative. Donc, il y avait déjà un projet qui visait notamment les oulémas et les fonctionnaires contre les risques de vénalité, etc. Donc, si vous suivez le filon mahmoudien, vous avez là quelque chose qui débouche essentiellement sur l'abolition du trafic des places. Donc, là aussi, un pendant. Ensuite, vous avez, je vous l'ai déjà dit, vous avez les Lumières avec la physiocratie, les droits de l'homme, et dont vous pouvez trouver des traces. Ça dépend de ce que vous voulez trouver, on trouve toujours ce qu'on veut, mais je trouve que c'est assez maigre, mais quand même, il y a des relances, elles sentent bien, bon, les droits de l'homme, et puis il y a quand même un dérivé très britannique des Lumières, le libre-échange au XIXe siècle, et la vision smithienne et la politique britannique, c'est ça. David Urquhart, que j'ai cité, « La Turquie et ses ressources », qui vient nourrir la politique britannique de Palmerston. Et là, vous avez, bien sûr, la crise égyptienne qui nourrit le système, puisque le traité de commerce anglo-ottoman, en abolissant les monopoles, est en train de frapper l'Égypte aussi, que les Anglais veulent maîtriser, alors que la France a tendance à imaginer même la possibilité d'un remplacement de l'Empire ottoman par un empire égyptien. Donc, voilà la politique britannique. Et quand vous parlez de politique britannique, vous parlez, bien sûr, de Reshid Pacha, qui est ambassadeur à Londres, qui est directement impliqué dans le traité de commerce, qui, lui aussi, est parfaitement conscient de la crise égyptienne et de son importance, et bien sûr, qui, lui, de son côté, a à se plaindre de la tyrannie de Mahmoud. Et on arrive alors aux mémoires de Reshid Pacha que j'ai citées, qui est quelque chose qui s'inspire, bien sûr, des réformes mahmoudiennes, mais surtout du révisionnisme de Reshid Pacha, qui envisage ceci comme solution à la tyrannie établie de Mahmoud. Et je terminerai en soulignant simplement ce que je pense être vraiment au cœur de la question. Et c'est pourquoi les Tanzimat, ça n'est pas un décret universel, c'est quelque chose qui parle assez elliptiquement, en évitant d'appeler un chat un chat et d'appeler Mahmoud Mahmoud, qui essaye de remettre les pendules à l'heure et qui, en fait, essaye d'instaurer la suprématie, ou du moins le pouvoir, et le pouvoir autonome autant que possible de la classe dirigeante, c'est-à-dire des pachas, des vizirs, de ceux qui représentent l'élite ottomane qui avait été brimée par Mahmoud et qui veut se reconstituer sous le jeune sultan Abdulmédine. Nous continuerons la semaine prochaine avec les développements qui suivent, en essayant de comprendre comment les deux décennies qui suivent vont s'inscrire dans la continuité ou dans la rupture de cette mouvance. Je vous remercie pour votre patience. Merci.